2024. Semaine Sainte 2024 avec la communauté de la Croix Glorieuse à Toulouse. Table ronde. Isabelle Duché.
En ce vendredi saint, nous sommes avec Sœur Anne-Claire. Bonjour Sœur Anne-Claire.
Bonjour.
Rapprochez-vous du micro. Et Muriel Sandrin, que nous avons déjà entendu à 7h40. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux membres de la communauté de la Croix Glorieuse. Vous, Sœur Anne-Claire, comme votre intitulé l'indique, vous êtes donc religieuse consacrée. Et puis vous, Muriel, vous êtes mariée à Christophe Sandrin et vous êtes un des couples de cette communauté.
Tout à fait.
Pour commencer, je voudrais, donc aujourd'hui nous allons parler de la règle de vie de la communauté de la Croix Glorieuse qui se calque sur la règle de Saint Augustin. Alors peut-être pour commencer, on peut rappeler quelques dates concernant ce grand saint. Il a vécu entre 354 et 430, il a fait des études à Carthage, il est parti après en Italie, il a été baptisé en 387 par Ambroise de Milan, et puis il rentre en Afrique, il devient évêque d'Hippone. Augustin est canonisé en 1298, donc il a fallu quand même attendre un certain temps, et reconnu comme docteur de l'Église la même année par le pape Boniface VIII. Voilà, j'espère, Sœur Anne-Claire, vous qui êtes une spécialiste de Saint-Augustin, j'espère que je ne l'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent.
Non, pas du tout.
Ça va, bon, mes sources étaient bonnes. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans la figure de Saint-Augustin?
Ah, c'est une vaste question.
C'est vaste, ouais.
Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Ouais. Il y a d'abord cette conversion, cet attachement au Christ magnifique, et en particulier, comme il le dit dans les confessions, cet attachement à son humble Jésus. Il dit dans les confessions qu'avant sa conversion, il n'était pas assez humble pour connaître son humble Jésus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Cette contemplation, en fait, qu'Augustin a faite, de cette figure de Jésus qui s'humilie, et c'est bien d'en parler aujourd'hui parce que c'est le cœur de cette humiliation, c'est vraiment cet abaissement jusqu'à la croix.
Oui.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément touché Saint Augustin et qui, en fait, a été la clé pour lui de sa vie. Et on reparlera de la question de l'humilité avec la règle. C'est quelque chose qui est très au cœur de sa vie, en fait. Et puis l'autre aspect, mais peut-être que Muriel, tu peux dire aussi.
Muriel, Sandrin.
Alors, la figure de Saint Augustin, elle me touche parce que, comment dire, il est enraciné dans la vie de son temps. Il est direct. Il dit ce qu'il vit, il le fait, ce qu'il dit. Et donc, cette façon de parler, cette façon carrée de parler, moi, elle me touche.
Oui, c'est concret.
Voilà, c'est très concret. C'est très né dans la vie de son, mais du coup, dans notre...
Allons à cette règle de vie, cette règle qui a été Saint-Augustin est effectivement très concrète. Elle n'est pas très longue, mais elle a des points vraiment très, très, très concrets. Dans quelles circonstances Saint-Augustin a-t-il été conduit à écrire une telle règle?
Alors, quand Augustin quitte l'Afrique, quand Augustin quitte l'Italie...
Pour l'Afrique.
Pour l'Afrique. Donc après son baptême par Ambroise, la mort de sa mère, il va retourner en Afrique, il va s'installer dans sa maison natale de Tégaste pour commencer une vie communautaire avec quelques personnes, quelques frères. Le but de cette vie communautaire, c'est de contempler le Christ en méditant les Écritures. C'est vraiment le fait de sa démarche. Et... au bout d'un certain temps, ils ne sont pas assez tranquilles à Tagaste et Augustin va aller chercher un autre lieu. Et Augustin se méfie beaucoup parce qu'à l'époque, on choisit les évêques, c'est par la Vox Populi. Et donc, il évite les villes où il y a le épiscopal est vacant, de façon à ne pas se faire nommer évêque.
Voilà.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à Hippone, où il se rend donc pour essayer de fonder une communauté, l'évêque, parce que le siège n'est pas vacant, il y a un évêque à Hippone, l'évêque Valère est fatigué et il veut un prêtre pour venir à son aide. Et donc, Augustin va se laisser happer par l'appel de l'Église et va donc devenir prêtre. Et à ce moment-là, il ne va pas pour autant renoncer à sa vie communautaire. Il va fonder un monastère, il faudra peut-être revenir sur cette expression, un monastère qu'on appelle le monastère du jardin, parce qu'en fait, l'évêque Valère lui donne un jardin où il peut installer sa communauté. Et donc, il va continuer la vie communautaire avec ses frères-là, jusqu'au moment où il est donc nommé pour remplacer Valère. Donc, quand il devient évêque d'Hippone, eh bien, il ne va pas non plus renoncer à la vie communautaire pour autant. Il va fonder un monastère de clercs, cette fois-ci, donc autour de lui. Mais le monastère du jardin va continuer à vivre. Et c'est pour le monastère du jardin qu'il va écrire cette règle et donc la donner aux frères. Ensuite, il va en faire une autre version, un petit peu différente, mais très peu différente, qu'il va adresser à une communauté de sœurs qui vivent à Épône aussi et qui ont besoin d'être aidées par cette règle.
Donc il va y avoir deux règles un petit peu différentes, adaptées, enfin une deuxième un petit
Elles
peu adaptée pour
très,
les...
très proches.
Elles sont très proches.
Oui. Oui. En fait, c'est même pas une règle, celle des sœurs. En fait, c'est dans une lettre, il intègre dans une lettre la règle, quoi.
Donc saint Augustin était donc d'abord frère, il a été donc ordonné prêtre pour, on pourrait dire évêque auxiliaire de, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, de l'évêque Valère, l'évêque d'Hippone, puis après il est devenu donc évêque d'Hippone. Il a continué à vivre donc avec ses frères, mais comme vous le disiez, avec des clercs, mais toujours en appliquant cette règle.
C'est ça.
Ouais. Oui. Et est-ce que ça changeait quelque chose d'appliquer cette règle dans un cadre, dans une communauté avec des clercs plutôt qu'avec des frères?
Alors, il en parle peu. D'abord, dans la règle, il n'y a rien qui le précise, parce que la règle, en fait, a été écrite pour les frères, donc qui ne sont pas clairs. Mais c'est, par exemple, c'est que quand on a quelques textes d'Augustin sur la vie communautaire, à la fin de sa vie, quand, à l'occasion de la mort d'un de ses frères, on découvre que, en fait, celui-ci avait gardé des biens. Or, on le verra, le cœur de la vie de la règle de Saint-Augustin, c'est vraiment la mise en commun des biens. Et donc, en fait, il est absolument retourné, scandalisé par cela. Je crois que c'était une grande trahison, en fait, pour lui. Et à ce moment-là, il livre un petit peu qu'en fait... par exemple, il dit dans ce texte que s'il reçoit quelque chose qu'on lui donne parce qu'il est évêque, tout ça, eh bien, ça ne justifie pas. Il n'y a aucune raison qu'il soit mieux habillé que ses frères, alors que parce qu'il est l'évêque, enfin, bon, en dehors évidemment des choses liturgiques, mais à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est très bon. Dans nos représentations, d'une manière tout à fait anachronique. Tout à fait anachronique. Il n'a jamais porté les habits épiscopaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, ça ne doit rien changer. Pour lui, ça ne doit rien changer. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce regard, en fait, sur le fait que, comment dire, l'autorité, la situation ne change pas.
Ne justifie pas de vivre dans l'opulence.
Ce qu'il dit d'ailleurs d'une autre manière, dans un autre contexte, dans cette fameuse phrase que nous connaissons tous de lui, « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». Il n'y a pas de sa charge épiscopale, en fait, c'est uniquement pour le service. Et ça, il ne veut absolument pas en tirer un avantage personnel.
Et là, on retrouve bien l'idée de l'humilité dont vous parliez au début de notre entretien. On est vraiment dans cette même veine. Muriel Sandrin, quand vous êtes entrée dans la communauté, vous avez découvert la règle de Saint-Augustin. Quelle était cette découverte?
Quand je suis rentrée dans la communauté, en fait, j'ai découvert les valeurs de la communauté d'abord, avant de découvrir la règle de Saint-Augustin. Et je dirais que la première chose qui m'a touchée, c'est la communion qui existe entre chacun. Et aussi l'attention au bien commun et l'attention aux personnes. Et ensuite, en effet, quand j'ai lu Saint-Augustin, c'est aussi ça qui m'a touchée. C'est-à-dire cette exigence de mettre en commun ce que nous sommes, non seulement nos finances, comme on vient de parler, mais aussi nos dons, nos qualités, tout ce que nous apportons, et puis tout ce que, au contraire, nos faiblesses, nos difficultés, voilà. Et puis de se mettre chacun au service du bien commun, c'est-à-dire au service de chacun. Et puis reconnaître aussi que chacun est différent et qu'il a besoin de choses différentes aussi. Voilà, c'est cette communion, cette unité qui en même temps se crée dans une différence et un épanouissement de la différence. Je pense que c'est ça qui m'a le plus touchée.
La règle de Saint-Augustin se décline en 8 chapitres. Quels sont les principaux éléments, Sœur Anne-Claire ?
Le principal élément, c'est le premier. La règle commence d'ailleurs en disant que c'est le principal, hein, c'est pas moi qui l'invente, puisque Augustin dit lui-même « avant tout, vivez unanime à la maison, ayant une seule âme et un seul cœur tendu vers Dieu, n'est-ce pas la raison même de votre rassemblement ?» Donc au moins c'est clair, on sait pourquoi on est là.
Pour vous tourner vers Dieu, mais dans l'unité.
Voilà, pour avoir un seul cœur, une seule âme tendue vers Dieu. Et c'est vrai que chacun de ces éléments est très important, parce que quand je parle de notre vie à des personnes qui sont extérieures au monde religieux, voire au monde du christianisme, quelquefois on me répond, mais c'est du communisme.
Alors, cette mise en commun, effectivement.
C'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Alors, je dis, il y a deux différences. La première, c'est que c'est un engagement libre.
Ah, ça n'est pas anodin.
Et la deuxième, c'est que c'est tendu vers Dieu. Et que ce n'est pas seulement de mettre des choses en commun, c'est de tendre à une unité de cœur et d'âme, mais en fait, parce qu'elle est tendue vers Dieu. C'est parce que nous cherchons Dieu ensemble et que... nous avons accueilli cet appel de Dieu, que c'est dans cette communion fraternelle que nous avons les conditions les meilleures pour trouver Dieu. Et donc, en fait, on ne va pas chercher Dieu, je dirais, ben voilà, ma prière personnelle, et puis après, s'il reste du temps, la vie communautaire, parce que il faut d'abord que je trouve Dieu dans ma prière personnelle. C'est pas du tout la démarche d'Augustin. On est ensemble tendus vers Dieu et ensemble on va trouver Dieu.
Mais ça n'empêche pas d'avoir une prière personnelle.
Ah, ça...
Muriel.
Oui, tout à fait. Ça n'empêche pas cela. Justement, moi ce que je trouve formidable, c'est que on tend vers l'unité tout en étant, en restant nous-mêmes. Et encore mieux, on tend vers l'unité tout en étant encore plus nous-mêmes. Parce qu'en fait, ben, on se rapproche de Dieu, ou tout du moins, nous essayons de nous rapprocher de Dieu. Or, Dieu, c'est l'unité parfaite et la diversité des personnes, en trois personnes, un Dieu. Voilà, ben, la règle de saint Augustin, elle essaie de nous faire toucher cela. Être un, tout en étant dissemblable, parce que pleinement nous-mêmes.
À l'image de la Trinité, finalement.
À l'image de la Trinité, tout à fait.
Un sacré défi quand même. Hein.
Oui.
Alors ça, c'est le premier article, voilà, cette tension vers Dieu, tout en étant unis les uns aux autres. Il y a quand même cette règle qui a un côté très pratique, hein, avec des articles sur... puisqu'aujourd'hui, nous sommes le Vendredi Saint, et un article qui m'a beaucoup frappé sur la notion de jeûne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Sœur Anne-Claire, et puis est-ce que vous nous direz aussi si vous pratiquez, comment vous pratiquez le jeûne en communauté ?
Alors, Augustin écrit sa règle dans un contexte, il n'est pas le premier, il n'est pas l'inventeur de la vie. À cette époque-là, il y a des communautés qui fleurissent un peu partout, en particulier en Occident, c'est vraiment le moment, l'essor du monachisme, avec un modèle où bien l'ascèse est très présente. Et donc, finalement, les frères d'Augustin pratiquent ce qui se pratique dans toutes les communautés qui fleurissent à ce moment-là. À ce niveau-là, Augustin n'a rien inventé. Ce qui est intéressant, c'est que comment dire, et c'est vrai de l'ascèse, mais c'est vrai aussi de tout le reste, c'est toujours chez Augustin rapporté justement, alors je ne dis pas qu'ailleurs on cherche à faire des exploits ascétiques, mais en fait ça n'a pas, c'est pas ça qui compte pour Augustin. Et justement on retrouve là l'aspect de l'attention au cas particulier, l'attention aux uns et aux autres. Ce qui compte en fait, c'est d'être libre pour tendre vers Dieu. Et le jeûne est un moyen, c'est pas une fin, même si on peut avoir faim.
Ça s'écrit pas pareil.
Le jeûne est un moyen pour tendre ensemble vers Dieu, et donc il doit être au service de la charité finalement.
Oui, oui, c'est ça. Et concrètement, vous le vivez comment ce jeûne, cette ascèse en
Alors,
communauté ?
Pour moi, il y a plusieurs jeûnes et plusieurs ascèses. Alors, je prendrai le jeûne que, voilà, se priver de nourriture, ben oui, on va marquer. De toute façon, chez nous, on marque toujours le Tridéum pascal, on le marque en fait toutes les semaines. Hein. Donc, le vendredi va être le jour où on va jeûner. C'est-à-dire, on va vivre en fait un repas extrêmement simplifié. Et puis, le soir, eh ben, on va le marquer encore plus. Voilà. Donc, on va vraiment se priver de ce qui est bon pour se tourner vers Dieu, pour avoir du temps pour faire autre chose. Voilà. Mais je dirais aussi que le jeûne se marque dans la vie quotidienne parce que, justement, nous faisons attention au bien commun. Et donc, nous privons de ce qui ferait notre satisfaction propre. Et nous essayons, hein, parce que là, nous sommes humains, nous essayons vraiment de vivre ce don aux autres. Et ça fait aussi, pour moi, partie du jeûne.
Je vous propose de marquer une première pause et puis nous reviendrons justement sur cette notion du bien commun qui est vraiment essentielle dans la règle de saint Augustin. À tout de suite. C'était le chœur, l'ensemble vocal 5 mars qui chantait « Tu nous as fait pour toi », une phrase bien connue de saint Augustin puisque nous parlons de lui ce matin et notamment de la règle qu'il a écrite et qui est la règle de vie de la communauté de la Croix Glorieuse. Je suis avec Sœur Anne-Claire et Muriel Sandrin. Nous parlions juste avant cette pause musicale de ce jeûne qui était vraiment mis au service du bien commun. Comment cette notion du bien commun se décline-t-elle dans votre communauté? Et peut-être d'abord, comment Saint-Augustin l'explique?
Alors, Saint-Augustin l'explique en partant des Actes des apôtres. Alors, c'est très intéressant parce que toutes ces communautés qui fleurissent au moment, un petit peu avant en Orient et puis ensuite en Occident, se réclament toutes de ces chapitres, acte 2, des livres des actes, chapitre 2, chapitre 4, qui donnent le modèle de la communauté chrétienne, finalement. Enfin, la communauté chrétienne idéale, le modèle de la communauté comme on veut. Où tout est commun. Pas de bien propre, mais tout est commun. Ce qui est intéressant, c'est que les autres auteurs de règles de vie vont insister sur le fait de ne pas avoir en propre, c'est-à-dire sur l'aspect pauvreté personnelle, alors qu'Augustin va être très attentif à la dimension qu'il y a une pauvreté personnelle parce que tout est commun. Et lui, il va mettre l'accent sur cette mise en commun des biens. Et donc, dans la règle, il le dit d'emblée, hein, après cette belle exhortation à vivre d'un seul cœur et une seule âme, ça commence, et puis, qu'on n'entende pas parler parmi vous des biens personnels, mais qu'au contraire, tout vous soit commun. Et un peu plus loin, que ceux qui possédaient quelques biens dans le siècle acceptent de grand cœur que ce soit chose commune dès leur entrée au monastère. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que la démarche, j'entre au monastère, je mets mes biens en commun. Ce que je possédais devient chose commune. Et ce qui est intéressant, cette petite note, ce que je disais tout à l'heure, la différence avec le communisme, c'est la volonté qu'il accepte de grand cœur. En fait, ce que Augustin invite à faire comme mouvement, c'est ce mouvement de partage qui fait que je me détache de mes possessions pour en faire quelque chose de commun, et ensemble, on va vivre tout ce que tout le monde aura mis en commun et qui va faire que la joie va grandir.
Concrètement, dans la communauté, vous, Muriel Sandrin, vous êtes mariée, vous avez des enfants. Mmh. Alors, ça paraît un peu compliqué d'imaginer une mise en commun. Comment vous faites?
Alors oui, vous avez tout à fait raison. Nous n'allons pas rentrer dans une mise en commun complète de nos biens parce qu'en effet, nous avons des enfants et que notre devoir d'État nous appelle à faire attention à eux et qu'ils ne font pas partie de la communauté puisqu'ils ont un choix libre à faire, voilà, de leur vie. Et voilà. Donc ça, c'est essentiel. Mais par exemple, ce que nous faisons, c'est que nous décidons, par un engagement de notre part, de vivre une vie simple. Et nous, dans toutes les faces, c'est la simplicité que nous choisissons et que nous faisons. Et nous allons partager de nos ressources. C'est-à-dire, nous avons par exemple un salaire qui tombe ou une retraite. Ce salaire, nous allons le partager avec nos frères et sœurs. Nous allons garder bien sûr ce qui a besoin pour la famille, mais nous vivons dans la simplicité et donc ce qui nous reste, le surplus, nous le partageons. Avec cette notion de, en effet, priser le bien commun, mais tout en bien sûr faisant attention à nos enfants, à nos familles, parce que ça fait partie du devoir d'État.
Il n'y a pas de tension vis-à-vis des enfants qui pourraient vous reprocher un jour « Ah, mais papa et maman, vous n'avez pas mis de côté suffisamment pour mes études » ou non ? Ça ne se passe pas comme ça ?
Alors, nous sommes dans le bien commun, donc jusqu'à présent, tous nos enfants ont fait des études, en fait, et c'est plutôt dans l'autre sens que ça se vit, il me semble. C'est-à-dire que des familles qui étaient démunies, qui sont rentrées en communauté, leurs enfants ont fait des études, parce que en effet, il y a un bien commun, et que le bien commun fait... les études sont importantes aujourd'hui pour les enfants, et donc, évidemment, nous venons en aide s'il y a besoin aux enfants. Donc non, jusqu'à présent, je pense qu'on a reproché le fait de ne pas avoir d'études à notre communauté.
Aussi dans sa règle, l'importance, il rappelle l'importance de l'assiduité aux offices quotidiens, du jeûne dont nous avons parlé, de la chasteté dans la vie consacrée. Et il dit cette phrase très belle, « Soyez les uns pour les autres les gardiens de la pureté ». Je trouve cette expression absolument magnifique, avec cette entraide. On sent bien que chacun s'entraîne vers le but ultime qui est le Christ, quoi. Et comment vous vivez cet entraînement mutuel dans le but de pour la pauvreté, la pureté, pardon.
Plus largement que être muet. Elle se joue à différents niveaux. Elle se joue d'abord parce que la vie mutuelle est de fait que nous sommes les gardiens des uns des autres. C'est que en communauté, s'il y a qui ne va pas bien, le domaine dans lequel il ne va pas, ça se voit. On se connaît assez bien, parce qu'on n'est pas nombreux nous. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. C'est que être gardien les uns les autres, c'est justement prendre les moyens de rejoindre. Alors, il ne s'agit pas que tout le monde, entre guillemets, dire « Oh, toi, t'as un œil qui ne va pas bien aujourd'hui, on va te sauter dessus pour te demander ce qui se passe », parce que ça, c'est insupportable et c'est l'envers de ce qu'on veut vivre. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un responsable dans la communauté locale, il y a un responsable de l'ensemble de la communauté, il y a un conseil de communauté, il y a des structures. Pour les jeunes, il y a un accompagnement aussi. Et en fait, on va s'entraider parce qu'on on est attentif aux uns aux autres et que s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, on va l'aider. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que chez nous, c'est quasiment institutionnel, puisque chaque semaine, nous avons un temps où nous pouvons prier les uns pour les autres et où nous demandons la prière si nous en avons besoin. Ça, c'est très important pour nous, parce que c'est le premier lieu en fait d'entraide mutuelle, c'est le soutien fraternel dans la prière.
Oui, bien sûr. Cette attention à l'autre, ça fait quand même penser à cette épître de saint Paul. Quand un membre du corps ne va pas bien, le corps ne va pas bien. Et donc, vous le vivez concrètement, puisque vous êtes vraiment attentifs les uns aux autres.
Oui, tout à fait. On vit ensemble, donc forcément on est attentif aux autres. Et en même temps, je pense qu'on a appris aussi à la juste distance, c'est-à-dire que l'autre a le droit aussi de ne pas se sentir bien certains jours. Et puis voilà, ça fait partie aussi d'accepter la fragilité de l'autre. Mais en même temps, si l'autre vient me dire « écoute, est-ce que tu peux prier pour moi ?» ou dans les moments où c'est institué, on va tout de suite venir, en tous les cas, on essaie tout de suite de venir au secours les uns des autres. Oui.
Il y a un autre article de cette règle de saint Augustin au chapitre 6, « N'ayez pas de dispute, ou du moins venez-en à bout le plus tôt possible ». Alors ça fait un peu rêver pour la mère de famille et les mères de famille qui doivent nous écouter. Ça, c'est quand même un sacré défi. Comment faites-vous pour appliquer cet article de la règle de Saint-Augustin ? Sœur Anne-Claire, d'abord.
Alors là, c'est pareil. Au niveau organisation de la vie communautaire, on a une pratique d'une demande de pardon commune hebdomadaire.
En fait, vous avez mis en place des moyens.
Oui.
C'est ça. Hein.
Mais en même temps, ces moyens, ils ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'on peut très très bien avoir une demande de pardon qui soit quelque chose qui devienne très formel. C'était un peu le cas dans beaucoup de monastères. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des sœurs qui disaient « Mais en fait, on a abandonné tout ça, nous. » Dit « Ah, vous avez retrouvé ça. » Mais nous, on avait abandonné tout ça parce que c'était devenu trop formel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une place, on peut très très bien venir à la demande de pardon, faire quelque chose de communautairement correct, en disant quelque chose qui ne nous engage pas trop. Et puis finalement, ça ne sert pas à la vie commune, quoi. Oui. C'est la responsabilité de chacun, cette authenticité, en fait, dans la quête de la communion. Et puis après, dans le concret, on ne va pas forcément attendre et on va même éviter d'attendre la demande de pardon prochaine, en particulier si on est quasiment à une semaine de la demande de pardon, pour se demander pardon quand il y a des choses. Ça, c'est lors de la demande de pardon. Mais la demande de pardon sans explication, sans dialogue, en fait, elle est stérile.
Oui.
Et donc, ce qu'on va privilégier aussi, c'est de se mettre d'accord en échangeant, en apprenant aussi, là, on apprend aussi à se connaître. Pourquoi tu réagis comme ça? J'ai réagi comme ça parce que tu vois, quand tu fais ça, voilà ce que ça provoque en moi. Mmh. Dans ces genres d'explications, il faut toujours se méfier en disant tu as fait ça parce que sinon c'est la mort.
Il faut parler en jeu, hein, je crois.
Mais voilà, on l'a appris aussi. La vie communautaire, bon, on a fait des bêtises, la communauté a traversé une grosse crise. Parce qu'il y a des choses qu'on a mis en place avec un manque d'expérience et du coup, on a été obligé d'ajuster, pas ajuster seulement les grandes lignes et réécrire nos statuts, mais ajuster notre comportement dans la vie communautaire de manière à justement que ce ne soit pas une jolie phrase sur un papier, oui. Mais que ce soit la réalité de ce qu'on essaie
de faire. Que ce soit vraiment très concret. Mireille Sandrin, vous avez dit que vos enfants étaient libres. Oui. Ils ne faisaient pas partie de la communauté en tant que telle. Est-ce que pour autant, vous arrivez quand même à mettre en place cette demande de pardon? Comment vous la vivez en famille?
Alors, aujourd'hui, ils sont tous partis de la maison, hein, mais je peux parler de ce qui s'est
passé. On va revenir un peu en arrière, alors.
Voilà, exactement. Je pense que ces demandes de pardon, quelque part, elles font partie de moi. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui a imprégné la vie de la famille. C'est-à-dire, on ne se couche pas sur une colère. On apprend à aller demander à l'autre pardon. Et comme chacun, de toute façon, va forcément demander pardon à l'un ou à l'autre. Il n'y a pas, voilà, et au bout d'un moment, ça se fait naturellement. Et puis, si des colères durent ou sont plus difficiles ou des disputes, des divisions, on prend le temps de parler, de revenir au cœur de ce que nous cherchons à faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce qui me touche dans ma famille, hein, c'est que les enfants sont extrêmement différents. Ils ont des vies extrêmement différentes. Mais quand ils se rencontrent, ils sont heureux de se rencontrer parce qu'ils se connaissent véritablement. Et puis, ils savent qu'ils sont capables de se demander pardon. Et donc, que l'amour entre eux est plus fort. Voilà.
Quelle richesse! Oui. Ça, vous nous faites un peu rêver quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, à vous écouter l'une et l'autre, on devine que cette règle de Saint-Augustin, elle a été écrite donc pour des religieux et puis aussi pour des sœurs. Et puis finalement, elle est applicable, elle peut guider des laïcs dans leur vie familiale et dans leur vie quotidienne.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est un esprit dans lequel il faut rentrer. C'est un esprit d'humilité, de recherche de la communion, de recherche du bien commun. Et tout cela, ce n'est que du bien.
Un dernier mot, Sœur Anne-Claire, pour conclure sur cette règle de Saint-Augustin. Comment, s'il y a un dernier point que nous n'aurions pas abordé?
C'est peut-être justement cette question de l'humilité.
Oui.
Je l'évoquais tout au début.
Oui, tout à fait.
L'humilité, concrètement, c'est de vivre entre nous l'humilité du Christ. Et en fait, ça se décline dans tout. Par exemple, dans la mise en commun des biens, j'arrive avec des biens, je ne vais pas m'enorgueillir parce que j'en donne plus à la communauté que quelqu'un d'autre. Et en même temps, je suis pauvre, je ne vais pas m'enorgueillir de ma pauvreté. Augustin est très vigilant là-dessus et il insiste beaucoup. Il dit que il faut pas que nos pratiques nous amènent à plus d'orgueil que ce que nous avions d'orgueil avant d'entrer en communauté. Et ça, je crois que dans la vie chrétienne, c'est quand même une tentation, toujours la tentation parce que c'est vrai qu'on tend vers le bien et que on progresse dans le bien, heureusement.
Avec la grâce de Dieu.
Avec la grâce de Dieu. Mais justement, Augustin, par ailleurs, est le docteur de la grâce. C'est-à-dire que lui, il a une conscience très vive qu'on ne peut faire aucun bien sans la grâce de Dieu. Et donc, en fait, il insiste beaucoup sur cette humilité. Dans le quotidien, l'humilité, ce n'est pas seulement un élan vers Dieu quand je vais me confesser. C'est vraiment dans le quotidien et à l'égard de mes frères. D'une certaine manière, il éclaire cette parole de saint Paul qui dit « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Voilà. Et ça, c'est vraiment très présent dans la règle. Parce que l'expérience d'Augustin, c'est justement que l'obstacle à cette union à Dieu, c'est l'orgueil. Et l'obstacle, finalement, à la communion, c'est l'orgueil.
C'est l'orgueil. Et cette façon de se mettre plus petit que les autres, c'est aussi ce que reprend saint Augustin en conclusion de sa règle. Il dit « Pour que vous puissiez vous voir comme dans un miroir, dans cet opuscule, et ne rien négliger par oubli, on vous en fera la lecture une fois par semaine, je ne sais pas si vous le faites. Et si vous trouvez que vous observez ce qui s'y trouve écrit, remerciez le Seigneur, dispensateur de tout bien. » Voilà cette notion de se voir dans un miroir et puis le fait que la bonne observance de la règle, c'est un motif d'action de grâce et non une raison de s'enorgueillir. Donc c'est voilà. Merci beaucoup Sœur Anne-Claire et Muriel Sandrin de nous avoir éclairé sur cette règle de saint Augustin mise au quotidien en pratique dans votre communauté de la Croix glorieuse.
Merci.